Bonjour à toutes et à tous pour cette table ronde autour de la science-fiction avec pur plaisir. Alors, aux Imaginales, il y a énormément de personnes qui viennent pour la fantasy, mais également et beaucoup aussi pour la science-fiction, parfois pour les deux. Et on va parler de ce sujet avec cinq auteurs qui ont chacun un profil très différent dans leur relation à l'écriture, dans leur manière de, dans le type d'écriture qu'ils ont. Donc tout d'abord Sylvie Lainé, principalement auteur de nombreuses nouvelles, mais on la voit systématiquement maintenant aux Imaginales. On nous parlera de son travail et sa relation à la science-fiction. Laurence Suner, qui vient d'écrire Quantica, donc qui s'est attelé à un gros travail de space opera. Raymond Hiss, auteur de nombreuses nouvelles, de science-fiction mais pas uniquement. Laurent Val, qui couvre énormément de domaines de traduction, d'écriture, de chronique, de présence systématique sur les festivals. Enfin, je crois que la science-fiction de A à Z. Et enfin, Jean-Michel Kang, qui écrit de très gros livres avec beaucoup de choses dedans de science-fiction, mais qui fait passer peut-être d'autres choses que de l'aventure. Il y a énormément de connaissances dans tous vos livres. Je vais donner la parole aux auteurs pour nous expliquer un peu ce que c'est pour eux, pourquoi écrire de la science-fiction. Peut-être Sylvie, si vous voulez.
Bon, évidemment, en écrire parce qu'on aime ça. Mais bon, pour aller un peu plus loin, je pense que il y a des plaisirs qu'on a quand on est jeune, qu'on perd progressivement et on s'en rend pas compte. C'est le plaisir de découvrir des choses nouvelles, de vivre des choses pour la première fois, de se trouver face à des situations ou des personnes qu'on n'a jamais rencontrées et qui ne ressemblent à rien. Plus on a une vie qui avance et qui progresse, et je dirais même plus cette vie est relativement équilibrée, satisfaisante, plus elle nous enferme dans des rails où finalement on dit toujours à peu près les mêmes choses. Donc la science-fiction pour moi, aussi bien quand j'en écris que quand j'en lis, c'est en tant qu'auteur, on a le plaisir d'embarquer le lecteur dans une histoire où, a priori, avant même d'avoir lu la première page, il sait que ce qu'il va lire va le surprendre. Et il a déjà le plaisir anticipé de ne pas savoir comment il va être surpris, mais il compte déjà. Et on peut le piéger de tellement de manières. Moi, j'adore commencer par des situations assez simples et classiques avec des vrais gens dans un monde qui n'est pas très différent du nôtre. Et puis après, la rencontre qu'ils font ou ce qui sera mis à leur disposition ou se révèle être totalement inattendu et surprenant. Et pour le lecteur, c'est comme une expérience de vie dans laquelle il est finalement obligé de se demander « Tiens, si ça m'arrivait à moi, comment je ferais ?» Et c'est le plaisir de l'enfance qu'on ressuscite. C'est très simple et c'est très magique.
Oui, alors moi, ça ressemble pas simplement à ce que Sylvie vient de raconter. C'est étant enfant, en fait, j'ai découvert la science-fiction et c'est le monde merveilleux que ça m'apportait. Qui me fascinait parce que bon, j'aimais déjà beaucoup la littérature d'aventure et en plus dans des mondes imaginaires, donc moi c'était juste ce que j'attendais. Et cette idée de surprise, d'émerveillement aussi, pareil que celui. Et de ne pas trop savoir justement à quoi on va s'attendre. La notion de surprise aussi, ça me venait. Et le plaisir de raconter des histoires qui. D'abord de lire des histoires où on va être émerveillé, puis de raconter des histoires qui vont peut-être, éventuellement, si c'est réussi, susciter des émerveillants chez les gens qui vont lire. Peut-être un petit goût pour les choses bizarres. Voilà.
Et donc, en ce qui me concerne, bon, j'ai commencé à écrire des nouvelles dans le domaine science-fiction, enfin dans l'éditeur de l'imaginaire jusqu'à présent, j'ai écrit essentiellement des nouvelles. Et comment je suis venu à la science-fiction? Ben, simplement, dans les années 80, j'ai écrit un certain nombre de nouvelles. J'en ai envoyé une à une revue canadienne qui s'appelait Imagine à l'époque, et qui m'ont publié immédiatement. Et bon, je ressors cette année-là, je ressors chaque fois, donc le public n'est jamais le même. Par le biais des Canadiens, je suis entré en contact avec Stéphanie Nico, qui habitait à un jet de pierre de chez moi à Nancy. Et je lui ai montré mes nouvelles, elle m'a dit celle-là c'est de la science-fiction, celle-là c'en est pas, celle-là c'est du fantastique, etc. C'est comme ça que je suis entré dans la science-fiction. Donc, comme le dit d'ailleurs Stéphanie Nico dans sa préface, je suis essentiellement raconteur d'histoires, j'aime raconter des histoires. Avec des personnages, des héros, des histoires cohérentes. Et comme Sylvie aussi, j'aime bien, même dans la science-fiction, jouer sur la surprise pour le lecteur. C'est-à-dire que, quelquefois, par exemple, je n'ai pas les titres en tête, mais une histoire qui se passe sur la planète Mars, une histoire qui se passe sur la Lune. Et puis en fait, c'est pas du tout ça. Les gens n'ont pas été envoyés pour ça, ou ils ne sont pas où ils se trouvent, et le lecteur est complètement surpris de cette situation. Donc c'est pas de la. Ce sont des anecdotes, ce sont des nouvelles qui se rapprochent au genre de la science-fiction.
Bonjour. Moi, ce que j'aime avant tout, c'est raconter des aventures et emmener le lecteur dans des rebondissements. Et j'aime passer d'un livre à l'autre. Ce sont des romans, moi, principalement, que j'écris. Donc, j'ai fait quelques nouvelles, mais pour plus de magazines, enfin bref. Mais. Je m'exprime plus sur une durée de 4 à 500 pages que sur un format court, parce que j'aime embarquer le lecteur dans des aventures que j'aurais peut-être voulu dire pour moi-même, même si elles sont parfois un petit peu rocambolesques. Et ce que j'adore avant tout aussi, c'est créer des environnements. J'aime pas dire des univers, parce que tout de suite on pense aux space opéras quand on dit ce genre de choses. Créer des environnements, donc pas mal de mes histoires se déroulent sur la planète Terre, c'est-à-dire celle-ci, voilà. Pas forcément dans notre temps, ou dans un temps parallèle, ou dans un temps futur, où je mets en scène la planète elle-même, plus mes personnages qui vont graviter à l'intérieur. Avant tout, je fais du rebondissement, et j'aime changer le décor de mes rebondissements. J'ai un roman qui se déroule dans le monde de la piraterie, en fait, la Fleet Story, avec des vrais morceaux de fiducier dedans, et pas de Johnny Depp, par exemple. Et puis, j'en ai un qui est un polar un petit peu humoristique sur le mode Blade Runner, si Blade Runner avait été drôle, par exemple. Et puis mon premier, qui lui est un space opéra, donc c'est la première fois, c'est la seule incursion que j'ai faite au space opéra, c'était mon premier roman, qui s'appelait Le Chant des Psychomorphes, parce que je pensais qu'un titre subtil attirerait les lecteurs. Je ne sais pas si c'est vrai encore à ce jour. Et puis maintenant, je suis dans le post-apo. Mes deux derniers romans sont des post-apo à 70 ans d'ici. Alors quand on dit faire rêver le lecteur, dans le post-apo, le rêve, il est quand même, on va dire, marginal, puisque ce sont des mondes qui sont un peu... qui s'effondrent sur eux-mêmes. Et c'est plutôt le règne de la démerde, le règne de l'amitié, le règne des gens qui vont survivre à ces cataclysmes. Mais tout ça... sur fond de rebondissement, parce que j'aime, comme mes petits camarades, surprendre le lecteur à chaque fois. Si j'arrive à me surprendre moi, je ne suis pas sûr que ce soit mieux, parce que ça veut dire que je n'avais pas pensé à ce truc-là avant. C'était très dommage.
Pardonnez-moi, mais je vais un peu prendre le contre-pied de ce qui est dit, mais bon... c'est la règle du jeu. Je prétends ne pas faire de science-fiction, je préfère dire que je fais de la balistique. Hein, c'est-à-dire j'essaye de voir où va tomber un projectile qui est déjà sorti du canon. Hein, par exemple, quand j'ai écrit « Reproduction interdite », j'ai rien inventé sur le clonage, c'était en 89. Il y avait déjà dans des laboratoires, sur les paillasses, des tentatives de clonage de cellules végétales, etc., etc. Donc c'était déjà... Bon, donc c'était sorti du canon. Et ensuite, eh bien, toute la difficulté est d'essayer de prévoir où ça va retomber en fonction du vent. Vous vous souvenez du sketch de Fernand Reynaud? Ça dépend s'il y a du vent, etc. Bon, d'où souffle le vent, quelles sont les conditions, la pression, etc. Ça ne va pas tomber au même endroit, mais on connaît quand même les lois qui font que ça, il y a une certaine probabilité pour que ça tombe dans ces parages. eh bien, ce qui m'intéresse, moi, c'est le projectile humain, une fois qu'il est parti, connaissant les lois de la physique humaine, où est-ce qu'il va retomber ? Vous avez tous fait ça au collège, hein, vous avez, ça s'appelle étudier le comportement d'une fonction à ses limites. Hein, c'est, vous connaissez sa constitution, vous avez tracé sur votre papier millimétrique quelques points, vous voyez que ça s'aligne bien, et donc ça vous donne une certaine confiance dans votre analyse, et vous prolongez donc la courbe jusqu'à plus l'infini. Vous savez bien que vous n'irez jamais à plus l'infini, mais voyons ce qui s'y passe. Et on a parfois des surprises. Voilà, donc, personnellement, c'est plutôt de la balistique, quelque chose d'assez physique. Et du coup, je m'inscris un peu en, non pas du tout en opposition, mais ou en tout cas en opposition amicale, avec tout ce qui vient d'être dit sur l'effet de surprise. Je ne suis jamais surpris. Puisque le point d'atterrissage était prédit. Il ne me surprend pas. Bon, ce qui me surprend, c'est toutes les péripéties, bien sûr. Mais l'endroit où le clonage va retomber, c'est-à-dire l'utilisation des clones humains comme réserve d'organes, elle était inscrite au moment même où le coup est parti, où le projectile est sorti du canon. Voilà. Donc, pas d'effet de surprise. Et bon, j'ajoute une autre chose, peut-être qui me différencie de d'autres auteurs, c'est je ne me projette jamais, même si je viens de parler de ce projet, d'étudier le comportement d'une fonction à l'infini, mes histoires se limitent à un horizon humain, d'accord ? C'est-à-dire, je m'intéresse à la première phase de la trajectoire. Hein. Donc, en gros, 20, 30 ans. Pourquoi ? De manière assez simple, bon, j'ai fait de la recherche, je sais que entre le moment où un résultat est avéré sur la paillasse d'un laboratoire et le moment où on le trouve sous forme d'un objet accessible au grand public, il se passe 30 ans. Et d'ailleurs, ce qui est très curieux, ce délai que je croyais qu'il allait se... dont je croyais qu'il allait se comprimer avec tout ce que nous raconte sur l'accélération des choses, la technique, etc., ce délai est toujours le même. Hein. Donc, les objets que vous voyez, iPhone, etc., etc., iPad, tout ça, ce sont des résultats de technologie qui étaient disponibles sur les paillasses il y a 30 ans. Donc, je me dis, je ne prends pas beaucoup de risques à essayer de prolonger sur 30 ans la trajectoire du projectile iPad. D'accord ? Donc mes histoires sont des histoires à horizon d'une vie humaine.
Donc là, vous venez pas mal de parler de paillasses, de recherche, de données issues des laboratoires. Est-ce que ça sert d'inspiration pour les uns ou les autres, ce qui se passe relation avec la recherche.
Alors moi je suis un peu dans le même domaine que Jean-Michel Truong, hein, puisqu'on est tous les deux du côté de l'intelligence artificielle en gros. Ceci dit, je ne suis pas sûre qu'on soit en opposition, j'accepte l'idée de la balistique personnellement, à condition qu'on accorde le fait que nous inventons souvent à la fois le canon et le projectile. Moi, il m'est arrivé, par exemple, de prendre comme point de départ la télépathie. Bon, c'est une vieille idée de la science-fiction. D'abord, on peut la mettre en scène avec des outils plus modernes, même si fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. Moi, je me suis amusée à le mettre en scène avec des nanomachines. Bon, ça aide d'être un scientifique pour faire ce genre d'expérimentation intellectuelle, ne serait-ce que parce qu'on a le bon vocabulaire, qu'on a l'habitude de construire des discours qui sonnent à peu près crédibles, qu'en tant que scientifique, surtout dans ces domaines-là, on a quand même parfois des théories. On n'est pas, quand on est dans le domaine de l'intelligence artificielle, on n'est pas un scientifique au sens où le sont des physiciens qui essaient de découvrir les lois naturelles du monde qui existaient bien avant qu'on commence à s'y intéresser. On est dans une autre démarche scientifique où on invente des théories qui finalement ne sont peut-être pas si différentes de ce qu'on fait quand on est un auteur de science-fiction qui essaie d'être cohérent. En tout cas, ce qui est très intéressant quand on invente un truc comme la télépathie, par exemple, c'est que on a à peine évoqué l'idée qu'on se rend compte qu'on est obligé de définir ce qu'on entend par télépathie. Est-ce qu'il s'agit de comprendre la pensée, de comprendre les émotions? Si oui, est-ce qu'elles vont interférer avec les vôtres lorsque vous recevrez celle de la personne qui est en face? Comment faudra-t-il s'en préserver pour garder... Et puis, de quelle manière est-ce que ça va perturber votre identité si vous êtes dans le flot de pensée de l'autre? Moi, j'ai choisi une voie, c'est ça le projectile qu'on invente nous-mêmes. J'ai choisi une voie dans laquelle, finalement, je ne voyais pas comment aller vers quelque chose de cohérent, autrement qu'en disant que la télépathie, c'était la capacité de faire quelque chose ensemble et de déplacer ça du côté d'une action commune et réfléchie plus ou moins consciemment à plusieurs. Construire une idée et la mener à son terme, c'est l'explorer de manière assez approfondie, essayer d'imaginer comment elle peut être développée de manière cohérente, d'une manière qui, en ce qui me concerne, n'a pas du tout besoin de s'apparenter en quoi que ce soit de la prospective. Ça n'est pas mon souci. Peu importe si jamais personne n'inventera ce type de machine télépathique, mais c'est tellement passionnant d'essayer d'imaginer ce que ça donnerait et ensuite ce que ça donnerait pour ceux qui le vivraient en tant qu'individu. Et de la même manière, raconter ce qu'est une histoire d'amour avec un dauphin, une histoire d'amour intense, y compris sexuellement, et de toutes les manières possibles, c'est un défi génial pour un auteur d'essayer d'y croire soi-même tellement qu'il faut inventer une manière de raconter qui fasse que d'autres puissent accepter cette hypothèse complètement saugrenue. Et plus l'hypothèse est saugrenue, et plus c'est rigolo, quand même, un peu. Bon.
Laurence, vous-même, votre inspiration, vous la prenez pas mal auprès des scientifiques, je crois.
Bon, à la base, je pars surtout d'une idée qui est personnelle, c'est-à-dire j'avais envie de développer un monde où, en fait, la science... il y a une différence de confrontation de l'humain face au langage scientifique et au langage mythique. Et je ne suis pas du tout scientifique, je suis juste archéologue, mais j'ai aucune formation en physique ou en astrophysique.
Elle est scientifique. Approchez-vous, on va essayer de continuer à...
Qui veulent dormir, vous arrivez à entendre?
Oui, d'accord.
Alors, vous disiez que vous êtes en train de traiter mon histoire d'un point de vue scientifique. Pour lui donner l'idée de faire croire au lecteur que je maîtrisais parfaitement le sujet de l'astrophysique et de la physique. Et tout ça pour servir en argument. Et ce qui reste le plus important pour moi, c'est l'histoire, c'est la narration, c'est le romanesque, mais sur une base scientifique, avec des scientifiques qui se trouvent confrontés à une situation qui doit être très préparée, qui doit être besoin d'interpréter d'une autre façon. Ça parle aussi beaucoup de la communication et de l'interprétation entre des civilisations qui n'ont absolument pas la même façon de fonctionner d'un point de vue cérébral. Donc comment communiquer, comment inventer un mode de communication quand tout sépare, quand on ne peut pas s'accrocher par exemple, une civilisation qui n'utilise pas les mêmes mathématiques, qui ne va pas comprendre le langage forcément le langage scientifique. Et comment arriver à communiquer dans un groupe de scientifiques qui n'ont a priori que ce langage, qui pensent que ce langage est le langage de l'univers. Et voilà, c'est le genre de problématique, de thématique que j'aborde en fait, dans ma trilogie Politica. Je ne sais pas si je réponds à la question.
Oui, non, mais en tous les cas, tu, ça montre, oui, voilà, mais ça montre bien toutes les interrogations que génère la science-fiction. Ce sont des problématiques beaucoup plus générales, en plaçant les êtres humains dans des situations finalement pas si différentes de que pouvait l'être celle de découvreurs alors à la conquête de nouveaux espaces, rencontrant de nouveaux peuples, de nouvelles façons de penser. Et aujourd'hui, on a l'impression que sur Terre, tout est connu, mais en partant ailleurs, qu'est-ce qui va se passer et comment recréer ce décalage?
On ne se comprend pas tous très très bien.
Hein. Non, exactement, exactement. Bon.
Bon, je vais utiliser le micro virtuel. Bon, dans le mot science-fiction, il y a science. Et bon, par exemple, moi, je n'ai pas de formation scientifique, donc ça peut paraître comme un handicap au départ. Et je sais que, par exemple, j'ai été amené à plusieurs reprises à travailler sur des appels à textes, à élaborer une nouvelle sur les appels à textes, par exemple, il y a des questions de manipulation génétique, augmenter la longévité humaine, etc. Moi, j'ai fait comme tout le monde, je me suis lancé sur Internet, j'ai trouvé des trucs, etc., qui avaient une sorte de cohérence scientifique, et je me suis lancé, je me suis bien amusé, parce que j'ai raconté des histoires absolument hilarantes sur des cochons modifiés génétiquement, etc. Donc, c'est pas un handicap. Il suffit d'avoir quelques informations à peu près cohérentes avec l'histoire, et sur le côté de la nouvelle, bien entendu, on n'est pas obligé de cet allongement sur les données supposées scientifiques. Pour le reste, bon, bah, effectivement, j'ai écrit dans le recueil que j'ai fait là, il y a tous un nouvel qui traite plutôt des problèmes temporels, des trains de voyage dans le temps. Donc, par rapport aux scientifiques, je ne suis pas handicapé, parce que autant la conquête spatiale et les vaisseaux spatiaux, on ne peut pas raconter n'importe quoi parce que ça existe. Mais la machine à remonter dans le temps, personne ne l'a encore inventé, personne ne l'inventera jamais. Donc là, je suis parfaitement à l'aise. Et je m'amuse beaucoup à faire des télescopages entre des gens qui rencontrent l'histoire à travers le voyage dans le temps, voire se rencontrent là à travers une problématique temporelle. Donc je ne pense pas, surtout pour écrire des nouvelles, que le fait de ne pas avoir de formation scientifique soit un handicap.
Néanmoins, le fait des fois de lire des choses, ça peut déclencher l'envie d'écrire en se disant « qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?» Non, je ne sais pas.
Il y a l'aspect aussi que deux fois la recherche documentaire génère un petit peu l'histoire. On sait que le problème des appels à texte, on est amené à écrire un truc sur un sujet qu'on n'a pas toute l'attention de traiter, sur lequel on n'avait aucune idée au préalable. On recherche de la doc et on trouve des inventions bizarres, des tas de trucs, et ça fait naître que ça alimente l'histoire. Ça génère l'histoire. Je sais que j'avais écrit, il n'y a pas d'anthologie, mais ça a été publié dans un nouveau spécial de galaxies. C'était le thème de la réchauffement climatique. Donc j'ai inventé l'histoire où, avec le réchauffement climatique, les orangers peuplaient le sud de la France et chassaient les autocultures. Je me suis renseigné sur des problèmes de ballons dirigeables. Que je connaissais plus comme rien, j'ai trouvé plein d'informations et j'ai inventé une histoire où on transportait les gens par ballon dirigeable. Certains étaient automatiques d'ailleurs, mais transportaient les oranges vers du Lot-et-Garonne vers le Danemark. Enfin, la documentation elle-même peut même arriver à générer l'histoire. Et de ce point de vue-là, alors que bon, peut-être une formation purement scientifique, ce serait peut-être un frein d'une certaine manière. Parce que je vois toujours l'idée de me dire, est-ce que mon truc est sérieux, est-ce que ça tient la route, est-ce que scientifiquement je ne vais pas le faire descendre en flamme par des spécialistes, alors que là je n'ai pas ce objectif.
Oui. Alors,
je ne
sais pas comment vous travaillez avec.
Je ne suis pas scientifique non plus, je suis vraiment allé à l'école brièvement, avec ça à faire ce moment-là. Et puis. Donc mon approche, moi, c'est pour ça que mon éditeur présente mes deux derniers romans, notamment comme des livres de science-fiction. Ce n'est pas des livres de science-fiction, parce que, comme disait Jean-Michel tout à l'heure, dans science-fiction, il y a nos sciences.
Non, c'est...
Bon, alors, c'est pas...
C'est l'avance.
Non, pas plus fort. Donc, voilà, il y a nos sciences dans science-fiction. C'est pour ça que je ne qualifie pas mes deux derniers romans de science-fiction, puisque je les qualifierais plutôt d'anticipation. D'une part parce qu'on a une histoire personnelle, il y a principalement de la collection Flamme Noire Anticipation, dans laquelle j'ai été baigné, comme j'étais Et donc là, on avait des histoires, peut-être des gens étaient un petit peu farfelus avec la science. À cette époque-là, il n'y avait pas les possibilités de recherche. Soit on avait été un scientifique, on savait de quoi on parlait, soit on n'était pas un scientifique et on racontait n'importe quoi. Mais ça faisait toujours des livres d'aventure, un rebondissement. Et c'est ça qui me plaît. Donc maintenant, moi, je ne suis pas scientifique. Et j'ai pas. Peut-être qu'un jour, je tomberai sur un sujet qui va nécessiter de faire des recherches approfondies, où je connais maintenant suffisamment de gens qui sont dans le scientifique pour pouvoir leur enseigner sur le fil, est-ce que c'est possible et comment ça marche, quelles sont les lois de la physique derrière ce truc. Mais il faudra que j'ai vraiment un sujet qui le nécessite. Je ne vais pas générer une histoire autour de quelque chose dans la peau. Moi, je préfère parler de l'aspect humain des choses. Les deux premiers romans, je vais dire, de ce. Ce nouveau monde pour moi qui est le post-apo, sont les deux premiers d'une série 4, je pense, et je m'éloigne de plus en plus de la civilisation telle qu'elle est maintenant. C'est-à-dire que, en fait, au lieu d'inventer des techniques de plus en plus sophistiquées, j'invente des techniques qui mettent en jeu de moins en moins de sophistication pour pouvoir être utilisable dans un monde où on a plus, par exemple, d'énergie. On peut aussi comme ça. Par exemple, l'iPhone, tout à l'heure, c'est très joli, mais bon, c'est plus du tout utile dans 70 ans. Il y aura d'autres techniques qui seront mises en œuvre. Là, je suis renseigné auprès de climatologues pour savoir quels sont les effets sur le climat et les conneries et à quelle échéance, parce que ça provoquerait comme montée des eaux. Donc, j'ai redessiné le sud de la France, par exemple, en imaginant la montée des eaux, pour voir si on saurait redessiner le paysage. Science-fiction, tel qu'on l'entend. Donc, c'est pas un voyage dans le futur, c'est pas 70 ans. Donc, la plupart des gens dans cette pièce verront cette horizon-là, qu'on ne sera pas loin, mais ce sera la jeune personne là-bas, par exemple, pourra se souvenir de ce que j'ai dit aujourd'hui, et à la fin, il avait rien dit. Voilà, donc moi, je me suis plutôt centré autour de l'humain, et les quelques aspects à la science, entre guillemets, sont comment faire de l'électricité si on en a toujours besoin, de quelle manière la faire sans avoir besoin de machinerie sophistiquée, comment faire cuire des aliments si on veut continuer à les faire cuire, comment caner de la viande pour qu'elle dure plus longtemps, parce que pour avoir des frigos, il faut pouvoir les alimenter, il faut qu'ils continuent de fonctionner, il faut avoir des gens qui sachent les réparer. Et ça, au bout de deux générations, c'est fini. Puisqu'il y a de moins en moins de machines, il y a de moins en moins de savoir à ce niveau-là, donc il faut en inventer d'autres. Et je pense que plus je vais m'éloigner de l'instant présent, dans ces moments, plus je devrais aller vers des choses à tendance, entre guillemets, écolo, parce que par force, puisqu'on ne pollue plus, on va aller vers ça. La Terre va se transformer, la Terre va devenir un personnage à part entière des histoires aussi, puisque on va découvrir une autre Terre, peut-être celle qu'elle était avant qu'on soit dessus nous-mêmes. Et les humains ne sont pas des petites communautés, puisque pour supporter le type de civilisation qu'on a, il faut avoir de plus en plus d'humains pour fonctionner de plus en plus pour alimenter la machine qui se détruit en même temps. Donc on va, je pense, tomber vers quelque chose, parce que c'est pas un roman, ce ne sont pas des romans post-nucléaires, ce sont des romans post-crise. C'est-à-dire que la crise, elle a continué. Pourquoi à un moment donné on est post-crise? Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus d'argent. L'argent en tant que tel, comme moyen d'échange, comme moyen de commerce, n'existera plus, puisqu'on ne va plus frapper de la monnaie, qui va le faire, et au bénéfice de qui, ça ne sera plus. Donc les gens vont échanger deux couteaux qui coûtent bien contre un kilo de chien, par exemple. Ça sera le genre d'échange qu'on aura à ce moment-là. Ou c'est aussi rare qu'on réussisse à sauvegarder peut-être un peu de pétrole pour retourner dans un quartier en groupe électrogène de briquet broc pour continuer d'avoir un petit peu d'électricité de temps en temps, qui sera. Docteur ou au bout d'eux, je suis pas scientifique, donc j'en parle pas, en fait, parce que ce serait casse-gueule et ça serait pas bon.
Jean-Michel, concernant l'imaginaire qui vous a nourri avant de vous lancer dans la science-fiction, qu'est-ce qui vous avait fait rêver avant d'écrire vous-même? Est-ce qu'il y a des lectures ou des.
Il y a forcément des lectures. Ce qui m'a ce qui m'a incité à écrire, c'est que j'avais du temps. Il s'est trouvé que j'avais du temps.
Il y a des choses à raconter.
Et donc, il y a eu un moment dans ma vie où j'étais assis sur un gros tas de noisettes parce que je venais de faire de bonnes affaires. Et avec surtout l'interdiction de faire concurrence aux gens à qui je venais de vendre ma start-up. Donc, pendant 3 ans, je n'avais pas le droit de faire d'intelligence artificielle et j'avais beaucoup de noisettes.
Et l'intelligence naturelle, j'en avais aussi.
Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, la tentation aurait été d'écrire sur tout ce que j'avais engrangé pendant ces années où j'avais fondé et dirigé cette entreprise d'intelligence artificielle, parce que ça avait bien nourri mon esprit, et où j'avais été déstabilisé, parce qu'en fait, j'ai eu, dans ma vie, ça s'est passé comme ça. Je suis sorti de l'université avec la tête pleine d'humanité, comme on dit, j'ai fait des études de sciences humaines, et tout de suite, j'ai été déversé dans la high-tech, d'accord ? Et donc, la high-tech en question, l'intelligence artificielle, remettait en question complètement ce que j'avais appris de ce qu'était l'humain.
Vous avez fait des études de philosophie.
Philosophie, psychologie, voilà. Donc j'avais une certaine idée de l'humain en sortant de l'université. Et, par exemple... Aristote l'avait dit avant l'intelligence artificielle. Ce qui caractérise l'humain, c'est le raisonnement. Ben oui, dans mon entreprise d'intelligence artificielle, on faisait des logiciels qui raisonnaient mieux que l'humain. Donc, comment caractériser l'humain? J'avais vu la statue humaine se déliter. Hein, des attributs qu'on accolait à l'humain, au concept d'humain, qui tombaient les uns après les autres sous les coups de boutoir de la technologie. Et donc, ça m'avait déstabilisé. Et donc, quand j'ai eu cette opportunité d'avoir devant moi 3 années où je n'avais pas le droit de faire d'intelligence artificielle et les moyens de faire ce que je voulais, eh bien, je me suis dit, je vais écrire un livre sur ce sujet. Mais... je me suis dit, ça serait peut-être plus intéressant de le prendre par le goût d'une autre technologie qui, à ce moment-là, commençait à émerger et qui s'attaquait aussi à l'humain, de manière encore plus, un acide encore plus sulfurique et sulfureux, c'est le clonage. Parce qu'à partir du moment où vous pouvez fabriquer dans des usines des humains, enfin des humanoïdes, disons, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont encore humains? Qu'est-ce qui les caractérise entre humains? Il m'a semblé que s'attaquer au clonage était un moyen de prendre le problème que m'avait posé l'intelligence artificielle par un autre bout. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis embarqué dans cette affaire. Je voulais juste, je ne veux pas monopoliser la parole, mais peut-être ce qui nous distingue aussi les uns et les autres, c'est que je mets moins que vous l'accent sur la storia, l'histoire, la storia, comme dirait Eco. D'accord ? Peut-être que je ne suis pas littéraire, en fait. La place de la storia est importante, puisque j'écris des romans. Mais moi, je m'intéresse à des projectiles qui tuent vraiment des vrais gens. Pas à des projectiles, c'est pour ça que je suis... un désaccord théorique, d'accord ? Je ne fabrique pas le canon ni le projectile. Ce sont des projectiles qui sont partis, malgré moi, si ça n'avait tenu qu'à moi, ils ne seraient jamais partis. D'accord ? Et ces projectiles, je sais qu'ils tuent. Donc je m'intéresse à ça. Mais, bien sûr, pour en parler et pour faire partager mes alarmes, mes inquiétudes, mes angoisses à ce sujet, j'ai choisi la voie de la fiction, un peu comme le pharmacien hein, qui met une belle couche de sucre autour d'une pilule amère pour la faire passer. Donc vous voyez, le rôle de la fiction est moins important, enfin je veux dire de l'histoire, je le reconnais. Et d'ailleurs je sais que c'est un reproche qu'on me fait souvent, à juste titre je pense, quelqu'un qui veut rêver, qui veut... chez moi, trouve que bon, c'est un peu limite de ce côté-là. Hein. bon, on peut penser, mais rêver, peut-être pas tellement, d'accord. Donc, je voulais insister sur ce point, hein, le rapport entre le contenant et le contenu, entre ce qui fait passer la pilule et la charge utile de la pilule, hein, qui peut être un poison.
Alors, je vais peut-être revenir plutôt au nom, à ceux qui se disent comme non-scientifiques. Parce que je pense que quand on a été baigné dans l'univers de la lecture de science-fiction, on n'est jamais complètement imperméable à la pensée scientifique, puisqu'il y a des données, il y a des informations qui viennent. Et puis, même quand on est un gamin qui n'a pas forcément envie de s'asseoir sur un banc d'école pour étudier un cours de physique, quand on lit des histoires de robots, d'espace et tout, on est quand même peut-être sensible à quelque chose. Il y a des choses qui passent, quoi. Et ça nourrit l'imaginaire aussi.
Oui, ça nourrit l'imaginaire, c'est certain. Hein. Mais je sais la différence maintenant qu'il y a entre savoir un petit peu parler d'un sujet et avoir approfondi le sujet. On parlait à certains des camarades qui sont de vrais scientifiques. C'est pour ça que moi, je ne m'avance pas trop là-dedans. J'en parle un petit peu parfois, mais c'est vrai qu'on acquiert au fil des années des connaissances et on ne sait pas forcément toutes les utiliser. C'est-à-dire qu'on sait, je pourrais parler des voyages de la vitesse de la lumière, je pourrais parler de différentes autres technologies, physique quantique, etc. Mais je peux juste le mentionner dans une conversation pour faire intelligence quand on est à la quatrième bière. Mais de là, quand on fait une histoire là-dessus, ça n'a pas de sens pour moi. Je vais me faire descendre par le côté de manière à la page 3, et puis c'est une grosse canon, ça. Donc voilà, il y a des impossibilités que je franchirais allègrement, comme le faisaient les auteurs du fleuve noir de l'époque. Un truc qu'il fallait prendre 3 semaines pour aller sur le vaisseau, il y a un trailer qui va franchement limité par la distance, machin, et un pivot à vitesse. Et on ne s'occupe pas de savoir que l'étoile, pendant ce temps-là, elle a bougé, que machin, que c'est pas en visant l'étoile là qu'on va tirer dessus. Donc, pourtant, à cette époque-là, on ne s'embarrassait pas de ce genre de choses. On s'en embarrassait à la même époque chez les Américains. Parce que les auteurs américains étaient beaucoup plus versés en science, étaient beaucoup plus renseignés, étaient dans un environnement où la science avait beaucoup plus de place chez eux. Que chez nous à l'époque. La science dans les années 60, elle consistait à regarder des boules qui faisaient pipi que les autres envoyaient dans l'espace. Voilà. On ne connaissait rien de ça. Je me souviens de la première grande nouvelle scientifique dont j'ai entendu parler, c'était Barnard qui avait greffé un cœur. Voilà. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que la médecine, c'était une science aussi. C'était pas juste là pour la grippe. Voilà. Et donc, on emmagasine forcément des techniques, des technologies. Mais je ne suis pas comme Jean-Michel qui fait le cœur de sa pilule avec ça. En fait, moi, le cœur de ma pilule, il est plus humain au sens, dans le sens où on peut en faire une matière qui va emmener les autres humains qui sont les lecteurs vers des aventures. Ce n'est pas, je n'ai pas du tout la prétention, je n'ai pas les connaissances de Jean-Michel ou de Sylvie en matière de science. Donc je ne vais pas m'atteler à ça. J'écris ce qui me fait rêver, moi. Ce qui me fait rêver, ce sont des aventures, et j'essaye, moi, que ma science à moi, ce soit de décrire, par exemple, un futur qui est plausible. De décrire un futur tel que je le verrai. Pas tellement tel que je le rêve, parce que rêve, c'est, le mot rêve, il n'a pas grand-chose à faire là-dedans. C'est plus, je me dis, si ça continue comme ça, on va dans un mur qui va arriver de plus en plus vite, ça va être exponentiel. Mais on se dit ça à chaque fois. On s'est dit... ça, j'entendais une conversation hier où quelqu'un disait oui, mais la lecture numérique, par exemple, je crois que c'était dans le sujet, la lecture numérique va tuer la lecture papier. Ouais, moi je me rappelle d'un type qui regardait un train sortir de la gare de la Ciotat et qui disait le cinéma va tuer le livre. Bon, ça, c'était déjà il y a un certain temps, quoi. Après, la télévision va tuer le cinéma, c'est pas la télévision qui tue le cinéma. Donc, après, il y a tous ces trucs-là, le téléphone.
L'imprimerie voilà, va tuer l'apprentissage.
Voilà, l'imprimerie va tuer l'apprentissage, le téléphone va faire que les gens vont rester tous chez eux, ils ne se rencontreront jamais, parce qu'ils pourront se parler au téléphone. Si en plus ils peuvent se voir maintenant, si le type qui avait dit ça à l'époque, il savait qu'il y aurait Skype un jour, Alors qu'à l'époque, on faisait des visiophones dans les bouquins de science-fiction qui ne sont même pas dans cette pièce. C'était, voilà. Et on est à combien ? Après 30 ans, quoi, tu tires le boulet, il part, et à 30 ans, il arrive. Il n'y a même pas eu 30 ans entre le moment où on dit qu'il y a un écran de télévision grand comme cette pièce qui disait en noir et blanc et qu'on parlait à un type qui était deux blocs, deux pâtés de maison en bas de la rue. Maintenant, on a tous dans nos poches un téléphone qui transmet des données, qui reçoit des mails, qui parle à n'importe qui instantanément dans le monde entier. On peut faire des recherches dessus. Si j'ai besoin d'un sujet scientifique sur le clonage, je vais sur mon iPhone et je tape clonage dans Google. Et hop, je vais avoir un tas de trucs. Mais ça ne sera jamais l'approche qu'aurait eu Jean-Michel ou Sylvie pour parler de cette chose-là, parce qu'eux, ils ont étudié la chose. Moi, je n'ai rien étudié du tout. J'en ai entendu parler, j'ai vu iRobot, j'ai vu, je ne sais plus quel, Blade Runner, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, où les réplicants, c'est quoi ? Bon, c'est des clones, quoi, hein, c'est des sortes de clones, on appellera ça comme ça maintenant. Voilà, quoi. Donc, mon approche à moi, elle est, j'essaye qu'à l'intérieur de la pilule, il n'y ait pas de truc à mettre. En tout cas, ils ne seront pas scientifiques, ils seront humains.
Donc, vous nous avez expliqué que parfois, en fonction des appels à projets, vous avez été amené à faire des recherches sur tel ou tel sujet. Est-ce que vous avez l'impression que la lecture ou l'écriture de science-fiction peut amener comme ça à s'ouvrir vers la culture scientifique de façon générale et que du coup, il y a des allers-retours permanents? Est-ce qu'on... Voilà.
C'est ce que moi, c'est j'ai dit tout à l'heure. Bon, le fait de devoir se documenter sur un sujet peut amener à générer même l'histoire pour laquelle on avait une simple ébauche. Mais on a parlé des sciences dures, mais il y a les sciences, non pas les sciences humaines, mais les sciences humaines également.
Voilà.
Mais,
les sciences
mais je
humaines,
sais pas, un autre exemple, bon, j'ai été amené à écrire une chronique. Et dans mon uchronie, ça commençait le classique de la bataille de Waterloo, et qui se termine mal, c'est-à-dire c'est Napoléon qui la gagne. Et donc, je me suis documenté quand même sur la bataille de Waterloo, bien sûr. Un historien, qui est un scientifique aussi dans son genre, lisant mon histoire, me dirait, à juste titre, qu'elle tient pas de vous. Parce que, on ne change pas un plan de bataille 3 heures avant. Le déplacement, je m'en suis rendu compte d'ailleurs en lisant les bouquins sur la bataille de Waterloo. Combien les déplacements de troupes étaient quelque chose de complexe, et qu'une fois que la machine était lancée, on ne pouvait plus l'arrêter, on ne pouvait plus la modifier. Donc mon histoire n'est pas cohérente avec les scientifiques. Et ça, c'est pas un problème. Je vais écrire une histoire intéressante qui fasse rêver, qui fasse, dans l'esprit du lecteur, créer des télescopages entre des événements historiques, entre le passé et le présent. Je crois que c'est ça qui est intéressant. Et autre chose également, donc, j'ai parlé tout à l'heure de la première nouvelle que j'avais publiée, qui a donc été publiée au Canada, et elle est née incidemment d'un rêve. Alors là aussi, c'est une matière première comme une autre, mais je suis bien placé maintenant pour m'en apercevoir, je lis des manuscrits de gens qui, parce qu'ils ont fait un rêve, parce qu'ils ont rêvé un truc, pensent que ça donnait une histoire. En fait, c'est pas du tout ça. Une fois qu'on a la matière première d'un rêve, il faut lui assurer une certaine cohérence, lui donner une forme littéraire, surtout penser au lecteur, voir comment le lecteur va pouvoir m'intéresser par cette histoire et pas par les fantasmes selon qu'on a dans la tête. Donc il y a une mise en œuvre littéraire qu'il y a à faire là-dedans qui est un véritable travail de recherche également et de conception.
Laurence, donc vous n'êtes pas. Vous dites que vous n'êtes pas scientifique, bon, il y a quand même une formation. D'archéologue à la base avec une certaine démarche, mais par ailleurs je pense que la science vous a toujours fait rêver et du coup les allers-retours entre la science-fiction et la science et la culture scientifique vous les connaissez depuis très longtemps et l'un comme l'autre voilà.
Je vais interpeller une question sur la science, c'est que dans les bouquins, c'est un autre type de. âge, j'ai un père mathématicien et une mère dessinatrice. Donc, du coup, tout de suite plongé dans un univers pour raconter l'histoire de ça, de recherche. Donc, j'ai toujours voulu mettre en romanesque des idées scientifiques à travers des personnages très humains. Donc, en fait, c'est un peu un moyen d'associer les deux. La science, l'idée scientifique me passionne, l'approche humaine par rapport à ces idées me passionne.
En même temps, les personnages scientifiques ont presque cette fragilité d'être un peu sûrs d'eux et sont déroutés.
Alors, ils sont sûrs d'eux dans un premier temps et de moins en moins sûrs d'eux au fur et à mesure que l'histoire progresse. En fait, leur approche scientifique ne suffit pas à être écoutée. C'est la chose à laquelle ils sont confrontés. Et là, ils se trempent sur leurs assises. Ils ont peur de leur chimère, je crois que les chimères les dépassent. C'est ça qui m'intéresse dans le récit, c'est l'évolution des personnages par rapport à la question. C'est l'évolution par rapport à dire, mais ok, ben, je pensais que ça fonctionne comme ça, mais ça fonctionne comme ça.
C'est assez drôle parce que la plupart des scientifiques qui ont écrit des livres de réflexion sur la science, les livres de jeunesse sont très rationnels. Les livres d'un âge plus avancé vont vers beaucoup plus d'ouverture à d'autres cultures, à d'autres. Justement, il y a des personnages qui ont d'autres cultures. Et...
Ça m'a fasciné, c'est un projet de travail avec les astrophysiciens de l'Observatoire de Genève.
Ouais.
Michel Mayer, Olivier Guillaume, tout. Et en fait, quand je les ai abordés, j'en suis. Parce que je vais oser dire toute la science-fiction, parce que c'est de moi.
Non, mais c'est
en fait, ils m'ont tous pris le bouquin. Ils ont adoré lire le bouquin. Ils se sont dit, ah, c'est chouette. En fait, on adore la science-fiction. Même à l'Observatoire, en fait, ils m'ont tous pris le bouquin. Ils m'ont fait des bouquins. Ça, c'était juste génial, parce que j'étais surprise. En disant, ok, je suis pas scientifique, je suis pas scientifique, je suis pas scientifique. Etc. Puis d'un coup, ils m'ont dit, ah, c'est chouette.
On va arriver vers la fin. Donc, Sylvie, par rapport à ce que vous venez d'entendre et avec votre formation, votre sensibilité de tant de chercheurs que d'écrivains.
Voilà, moi je voulais dire que j'ai toujours trouvé la science fascinante, amusante. Je pense que c'est aussi grâce à la science-fiction que j'ai découvert. Ça m'a donné envie. En tant que chercheur, j'aime bien le principe de la science parce que quand on l'apprend à l'école, la science c'est un amas de certitudes, de trucs qu'on n'a pas le droit de contester. Et quand on fait de la recherche, on en a une vision complètement différente. La science c'est un gros tas de lois. Ah oui, c'est l'habitude.
C'est complètement irrationnel de parler dans un micro qui ne marche pas.
Ça ne marche pas moins bien.
Mais non, mais ça pose la voix.
Ça fait une jolie sur les photos.
Je ne me rappelle plus du coup. Oui, quand on est chercheur, la science, c'est juste un ensemble de lois qui n'ont pas encore été réfutées. Il n'y a rien de définitif. On sait qu'on n'aura jamais la certitude qu'une loi scientifique est vraie. Donc c'est fascinant, c'est un ensemble vivant auquel en plus on se dit qu'on va pouvoir contribuer. Bon, tout ça c'est bien génial, mais être scientifique à l'heure actuelle, c'est pas rigolo du tout. Moi je suis dans un monde universitaire qui va pas bien, où on est soumis à des logiques d'évaluation, où on doit publier dans des revues qualifiantes de rang A, qui sont pas les plus innovantes. Je vois qu'il y a des commissaires dans la salle. Quand on a des idées un peu originales, on ne peut pas les publier dans des endroits où la communauté considérera qu'on fait un travail significatif. C'est un espèce de cercle infernal où, pour avoir un bon dossier chercheur, il faut faire ce qu'il est convenu de faire pour être bien pris en compte. Et c'est absolument pas ce qu'il y a de créatif. C'est relativement désespérant. Moi, je suis une scientifique déprimée, comme pas mal de mes collègues. Si on continue à adorer la science et qu'on ne peut plus faire un travail stimulant et créatif en étant chercheur, ce qui est quand même un comble, mais qu'est-ce qui reste? Eh bien, continuer à jouer avec les idées de la science qu'on continue à trouver fascinantes, en faisant des histoires avec. Donc ça, c'est un vrai plaisir et ça comble une vraie frustration qu'on est un certain nombre à éteindre.
Je partage.
l'un ou l'autre, de... parce que je trouve que c'est un beau
débat. Oui, très bien. Merci. J'ai répondu un petit peu. Oui, j'ai répondu un petit peu à côté de la question tout à l'heure. Mais c'est vrai que depuis la science-fiction, je m'intéresse. Je n'ai pas lié à mon attente de la formation scientifique. Mais je sais que quand je m'intéresse à l'actualité, je ne rate jamais des informations scientifiques sur les appareils, les explorateurs qui sont envoyés sur Mars ou sur les problèmes de clonage, etc. Il m'arrive de même dire d'acheter un bouquin sur la physique quantique, chose que je n'aurais pas fait autrefois. Donc il y a quand même une interaction entre le fait d'écrire de la science-fiction et la curiosité qu'on peut avoir par ailleurs dans le domaine de l'information.
Et c'est vrai aujourd'hui qu'un certain nombre de chercheurs sont soit dirigés vers des petites nouvelles de science-fiction ou vers des écrits de vulgarisation scientifique pour faire passer certaines idées, et tout en restant très ludique en essayant de faire plaisir un peu aux différents niveaux de lecteurs. Si quelqu'un a une question, on a encore... Sinon, on peut continuer à discuter sous le chapiteau pour aller découvrir les
chaussures.
Juste attention à une chose, certains auteurs ne seront plus là cet après-midi, donc profitez encore de la fin de matinée pour discuter avec...